secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Leili Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Michel Bernaud. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Michel Maxime Eger pour parler de l'écologie et de la spiritualité comme réponse à une urgence collective. Bonjour Michel Maxime Eger.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et journaliste de formation. Vous dirigez avec Philippe Roche chez Labor et Fides la collection Fondation écologique qui, je cite, propose des ouvrages cherchant à dégager les concepts, les valeurs et les moyens propres à fonder une civilisation respectueuse des limites écologiques d'un côté et de la diversité des aptitudes et aspirations humaines de l'autre. Vous avez publié dans cette collection deux ouvrages, La Terre comme soi-même et plus récemment Soigner l'esprit, guérir la terre, introduction à l'éco-psychologie. Mais surtout, vous travaillez, Michel Maxime Eger, comme responsable d'une ONG pour le développement durable et des relations Nord-Sud plus équitables. Vous avez fondé le réseau Trilogie, au pluriel, qui permet de mettre en dialogue les traditions spirituelles et les grandes problématiques de notre temps. Vous n'êtes donc pas seulement dans les grandes idées, mais aussi dans l'action, parfois même des petites actions, mais qui peuvent avoir de grands effets. Je n'oserais pas dire en la circonstance que vous avez les mains dans le cambouis, mais en tout cas, vous êtes en prise directe avec le réel et vous tentez d'imaginer, de tester des solutions possibles aux difficultés auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Et cela accentue de fait la légitimité de votre approche qui est résolument holistique et qui n'envisage pas de séparer l'âme de la matière, le spirituel, de l'écologie. Alors, Michel Maxime Eger, je voudrais commencer par vous poser cette question. Comment en êtes-vous venu à cette approche écologique? Parce que votre formation première, c'est la sociologie et le journalisme. Alors, pourquoi cette façon particulière d'aborder la question écologique?
Alors, c'est le fruit, je dirais, d'une longue histoire, qui est en fait mon histoire et mon chemin spirituel. Alors c'est vrai que j'ai commencé par des études de sociologie, ensuite j'ai fait une dizaine d'années de journalisme, et puis après ce temps de journalisme où j'arrivais un peu aux limites, si vous voulez, d'être simplement spectateur du monde et de ses problèmes, j'avais envie d'un engagement, c'est là que j'ai décidé de postuler pour un poste dans une ONG pour la politique de développement, donc pour travailler pour des relations nord-sud plus équitables. Et ça, je dirais que c'est un petit peu le versant militant de mon existence, mais en même temps, depuis plus de 30 ans maintenant, je suis aussi dans un chemin spirituel, un chemin de transformation intérieure, qui m'a, après une éducation catholique, la rupture avec l'Église, le voyage en Asie, un passage par le bouddhisme zen, m'a fait redécouvrir mes racines chrétiennes dans la tradition orthodoxe. Et j'ai évidemment pour moi transformation de soi à travers un chemin spirituel, transformation du monde à travers un engagement politique, ça fait une seule et même chose. Mais à un moment donné, j'ai aussi de plus en plus acquis la conviction que si on voulait vraiment transformer le monde, il fallait pouvoir articuler d'une manière plus visible, plus concrète, et pas simplement à mon niveau individuel, ces deux dimensions de transformation de soi et transformation du monde. Et c'est ce qui m'a amené, parce que j'ai toujours été extrêmement sensible à la nature et très touché par ce qui arrive à la nature, tous les maux qui l'affectent. C'est ce qui m'a amené à un moment donné à m'engager plus spécifiquement sur la problématique écologique comme une forme de laboratoire qui me paraît assez idéal pour tenter cette articulation.
Oui, alors justement, vous avez dit j'ai beaucoup aimé la nature, donc je me suis intéressée à l'écologie. Peut-être qu'on pourrait essayer de tenter une définition de ce mot, puisqu'en réalité, je me suis rendu compte en vous lisant, mais aussi en discutant avec des scientifiques ou des spirituels, que nous ne donnons pas nécessairement la même définition de la nature. Et peut-être qu'il faudrait commencer par là, ça permettrait de lever quelques malentendus. Michel Maxime Eger.
Alors ça, c'est une vaste question, parce que c'est vrai que la nature ou l'idée de nature a énormément évolué à travers l'histoire. D'abord à travers l'histoire de l'Occident, parce que la nature, chez les Grecs, le cosmos, n'est pas la même nature que la nature des modernes, qu'on va peu à peu transformer en objets et en stock de ressources. Et ce n'est pas non plus la nature de la tradition judéo-chrétienne, qui d'ailleurs ne connaît pas le mot nature, mais parle de création, qui indique d'ailleurs immédiatement que on ne peut pas concevoir la nature. Alors moi, quand je parle de nature, c'est une manière assez... je dirais assez simple, assez basique, on pourrait dire. C'est-à-dire, au fond, la nature, c'est toutes les réalités non humaines ou autres qu'humaines, plus précisément. Donc, tous les règnes minéraux, végétaux, animaux, qui ne sont pas humains. Ça, c'est la nature. Après, la création, précisément, est un concept intéressant parce que, d'emblée, elle inscrit le lien entre la nature telle que je viens de la définir et l'être humain, puisque l'être humain est aussi en fait une entité ou un être créé. Et puis, on pourra après voir que la nature, elle a aussi un sens différent selon les traditions religieuses et selon les cultures et les civilisations. Donc, d'une manière, j'aurais presque envie de dire un peu pragmatique et opérationnelle, quand on parlera de nature, en tout cas dans cette émission, ce sera pour signifier, au fond, la toile de la vie dans ses dimensions autres qu'humaines.
C'est-à-dire, ça sous-entendrait que donc nous en tant qu'humains, nous ne faisons pas partie de la nature.
Non, alors c'est vrai que vous avez raison de préciser ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout entendre ça comme une séparation, mais j'aurais envie de dire comme une distinction. C'est-à-dire qu'en réalité, et je pense que c'est d'ailleurs un des enjeux de l'écopsychologie et de l'écospiritualité, c'est précisément de redéfinir à quel point nous sommes dans une unité avec la nature. Alors une unité qui n'est pas une dissolution ou une fusion dans le grand tout cosmique, en tout cas dans ma perspective, c'est-à-dire qu'on ne perd pas la dimension spécifique de l'être humain par rapport à l'ensemble du créé, par rapport à l'ensemble du cosmos. Il a une place, il a un rôle qui est particulier, mais en même temps il est complètement lié. Et là c'est vrai que je pense qu'en particulier en Occident, où on est allé vers un dualisme entre l'être humain et la nature, alors vous avez raison de mettre le doigt, peut-être que ma définition pourrait conduire un dualisme, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, parce que d'une certaine manière, nous portons toute la nature avec tous ses règnes en nous, et nous sommes évidemment partie intégrante de ce grand tout, de la nature et du cosmos.
Alors justement, vous avez parlé de dualisme, et il me semble que c'est bien là que le bât blesse, si je puis dire. C'est cette question du dualisme qui a donné naissance à ce mouvement, enfin... C'est pas une science, c'est vraiment un mouvement de pensée, un courant de pensée qu'on appelle l'éco-psychologie, dont vous retracez l'histoire, les idées, les variations aussi, parce que c'est pas une pensée monolithique. Donc, ce qu'on appelle l'éco-psychologie, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que j'ai vraiment découvert à travers votre livre. Et c'est vrai que l'éco-psychologie, c'est vraiment une pensée qui va tenter justement de dépasser cette question de la dualité et de dire qu'en réalité, il faut que, entre la nature et l'homme, dans les deux sens, le rapport soit rétabli pour qu'on puisse commencer à penser PENSER, mais aussi à penser nos plaies, qui sont d'ordre écologique, évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce mouvement et comment, un peu à grand trait, hein, parce que votre livre fait 300 pages, mais enfin, voilà, à grand trait de nous dire d'où ça vient, rien que ce mot, et quel est le fondement, justement, de l'éco-psychologie, Michel Maximeger.
Pour bien comprendre l'importance et le sens de l'éco-psychologie, il faut la situer par rapport au problème qui lui a donné naissance, qui est précisément la crise écologique. C'est-à-dire, en fait, toutes les dégradations, tous les maux dont la Terre souffre et qui l'affectent. Et par rapport à ça, il faut voir que... On a eu, il y a un mois, une grande conférence à Paris, à la COP21 sur le climat. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris véritablement la mesure de la profondeur de cette crise. Parce que cette crise, c'est un véritable bouleversement systémique, c'est pas simplement une crise au sens habituel du terme, et qui non seulement pose des défis énormes à l'humanité, mais je crois que met en question, d'une certaine manière, les fondements même de notre existence et de notre être. Et là, Joanna Macy, qui est une des grandes figures de l'éco-psychologie, dit l'humanité se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, elle a un choix à faire entre trois histoires. Pour aller vite, d'un côté, le business as usual, c'est-à-dire finalement la continuation des choses telles qu'elles vont, avec cette illusion que par la technologie, on arrivera à résoudre les problèmes. C'est finalement, on pourrait dire d'une certaine manière, le scénario du déni. Le deuxième, c'est la grande désagrégation. On prend en compte toutes les dévastations en cours. Et puis c'est vrai que, sentiment extrêmement répandu dans la population, on est envahi par une impression d'impuissance ou de découragement. Et le troisième scénario, ce qu'elle appelle le changement de cap, the great turning, le grand tournant, c'est-à-dire comment on arrive à passer d'une société, d'un monde, d'un mode de développement, d'un système économique qui détruit la vie pour aller vers une société et un monde qui honore, célèbre, respecte la vie parce que justement fondée sur des relations plus équilibrées avec la nature et les autres vivants. Pour amorcer ce changement de cap et pour le réaliser, on voit bien que ce qu'on appelle l'écologie extérieure, cette écologie qui est faite de normes, de technologies, de lois et aussi de tous les éco-gestes au quotidien qu'on peut faire, tout ça évidemment extrêmement important, on voit bien que cela ne suffit pas et que ça doit s'articuler à une dimension d'intériorité, à une dimension de profondeur. Et l'écopsychologie, c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire découvrir ces courants qui sont très développés dans le monde anglo-saxon, mais assez essentiellement inconnus chez nous, qui existent un petit peu à travers quelques figures, j'aurais envie de dire individuelles, mais pas comme dans le monde anglo-saxon, où à partir des années 1990, en particulier aux États-Unis, puis ensuite ça s'est exporté dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, au Royaume-Uni, on a là toute une série de psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, mais aussi d'écologistes, aussi des philosophes, qui ont donné naissance justement à... C'est pas une nouvelle discipline, ça se veut pas même d'ailleurs un nouveau, on pourrait dire une discipline universitaire, mais on pourrait dire un mouvement, une mouvance, un champ de recherche fondé sur cette idée que pour répondre à ces défis, il faut une alliance entre la psychologie et l'écologie. L'écologie a besoin de la psychologie a besoin de l'écologie.
Et aussi l'idée que finalement les pathologies écologiques sont en miroir des pathologies humaine et vice-versa. C'est-à-dire là, la psyché humaine devient une sorte de microcosme qui reflète les grandes maladies écologiques de notre temps.
Ça, c'est un des champs d'exploration, c'est comment s'articulent d'un côté les souffrances de la personne, les souffrances de l'être humain, et en particulier les psychothérapeutes qui ont donné naissance et qui ont développé cette science, eh bien, on dit, mais on ne peut pas simplement aller chercher les racines de ces troubles dans les problèmes liés aux parents, enfin, toutes ou les thérapies familiales habituelles. Bon, c'est clair que depuis les années 60, on a élargi le champ d'investigation en intégrant la famille dans les approches systémiques et la communauté en partie, mais de dire, mais ça a aussi à voir avec les maux qui affectent la Terre. C'est beaucoup plus subtil, mais dans leur approche, elles se sont rendues compte qu'il y avait un lien direct. Et évidemment, il y a la réciprocité, c'est-à-dire que finalement, toutes les dégradations environnementales ont aussi un impact sur la Terre et tous les déséquilibres intérieurs qui peuvent, par exemple, se manifester dans des comportements à travers le consumérisme, ont évidemment aussi un impact. Donc il s'agit de voir, d'aller explorer les liens profonds de cette réciprocité, finalement, entre les souffrances de la Terre et les souffrances de l'être humain, mais évidemment dans une idée de guérison et dans cette idée qu'on ne pourra pas restaurer la santé de la Terre sans restaurer celle de l'être humain et de sa psyché, et inversement.
Oui, et alors justement, alors il y a même vous citez... Vous citez plus les aspects théoriques, bien sûr, de cette pensée, mais aussi vous donnez quelques clés pour comprendre, par exemple, les phénomènes d'addiction qui se démultiplient dans notre société. Et beaucoup de ce qu'on dit dans l'écopsychologie, c'est que le problème de l'addiction, c'est un problème de notre rapport à la fois au désir, au désir de possession, à la consommation, mais aussi de notre rapport vicié, finalement, j'emploie ce mot à dessein, avec ce que la nature peut nous donner ou ce que nous voulons prélever sur cette nature, sans considération, avec l'idée que quand on donne, on prend, et quand on prend, il faut donner aussi.
Alors, c'est vrai qu'une des questions qu'il se pose, c'est de pourquoi est-ce que la passion de consommer est aussi profondément ancrée dans l'être humain ? Et qui rend d'ailleurs très très difficile le fait de sortir de cette société de consommation. Bon, il parle évidemment, nous consommons tous, nous devons tous consommer pour pouvoir vivre. Là, on est vraiment dans une analyse et une critique du consumérisme, c'est-à-dire en fait la consommation qui devient érigée en mode d'être. Et c'est vrai que quand on analyse qu'est-ce qui motive plus profondément les personnes à entrer dans de tels comportements, eh bien on voit qu'en réalité, eh bien il y a des quêtes, il y a des besoins, il y a des manques qui sont de l'ordre de l'être, qui sont de l'ordre d'angoisse, qui sont de l'ordre de l'insécurité, de recherche de reconnaissance, de recherche d'identité aussi. Et que les éco-psychologues disent, plutôt que d'aller chercher des réponses à ces quêtes et à ces manques et à ces angoisses dans ce qu'ils appellent des sources primaires, et des sources primaires de satisfaction, eh bien, ça peut être la nature, précisément. Ça l'a toujours été. Mais c'est évidemment la dimension spirituelle aussi, le divin. Et puis, la qualité des relations humaines, les liens plutôt que les biens. Et eh bien, plutôt que d'aller chercher des réponses et des satisfactions à ces sources primaires, la personne va les chercher dans des sources secondaires, qui sont de l'ordre plutôt, pour aller vite, de l'avoir. Mmh. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on essaie de satisfaire une demande profonde, une aspiration qui est de l'ordre de l'être, par quelque chose qui ressort de l'ordre de l'avoir, eh bien, automatiquement, on entre dans l'illusion de la satisfaction, donc dans une frustration, et donc dans un mécanisme d'envie, frustration permanente, qui est d'ailleurs la machine, qui est le moteur même du système économique.
Et alors, pourquoi Michel Maxime Heger, à votre avis, et selon ces éco-psychologues, pourquoi on entend de mal à sortir de cela, même quand on le sait? C'est-à-dire qu'on sait qu'on est pris dans une sorte de spirale, en fait, consumériste. Chacun d'entre nous, je pense, avec des degrés divers, sans doute, mais enfin, vécu cela. Et cette addiction du toujours plus, on l'a tous, je pense, expérimenté. Je le dis bien à des degrés divers, mais enfin, je crois que tout le monde sait de quoi on parle. Pourquoi, même quand on le sait, et je crois que beaucoup de nos auditeurs en sont convaincus, pourquoi, même quand on le sait, on ne peut pas, ou c'est si difficile d'en sortir? En tout cas, tellement difficile d'en sortir individuellement, alors encore plus difficile d'en sortir collectivement.
Alors je dirais deux éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est que ces comportements ou ces tendances, il faut voir qu'elles sont devenues structurelles. C'est-à-dire qu'en réalité, l'avidité ou ce besoin de consommer n'est pas forcément quelque chose de naturel. C'est devenu quelque chose d'une dimension qui est construite, qui est le fruit de tout un système économique, de tout un système qui est aussi lié à l'éducation, qui se transmet, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans tout un ordre socio-économique qui finit d'ailleurs par vivre en nous. Vous savez, vous pouvez faire toute la critique du capitalisme et du consumérisme, mais en réalité, pourquoi est-ce que ce système résiste si bien? C'est parce qu'en réalité, ce système, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Et la deuxième raison, et qui touche d'ailleurs, pourquoi alors que finalement on a l'information et qu'on sait et qu'on ne change pas de comportement, eh bien c'est exactement le même processus, le même phénomène qui a aussi été analysé par les éco-psychologues, c'est par rapport à toute l'information que l'on peut avoir sur les maux dont souffre la planète. Mmh. Et on voit bien qu'il y a un hiatus, qu'il y a un fossé entre toute cette information. Nous sommes extrêmement bien informés, voire surinformés par rapport aux maux qui affectent la planète, et on voit bien que les changements de comportement, sans parler des mesures politiques, ne sont pas suffisantes, sont complètement en décalage. Alors pour les éco-psychologues, Ils ont aussi exploré ce hiatus, et une des raisons, eh bien, ils parlent d'une forme de division ou de dissociation intérieure à l'être humain, c'est-à-dire qu'en fait l'information, elle nourrit la tête, elle nourrit le mental, c'est rationnel, mais est-ce que véritablement cette information, elle descend à l'intérieur de nous pour venir toucher le cœur? Et quand le cœur, il faut que le cœur soit touché et se mette à brûler pour que véritablement nous ayons l'énergie et le feu pour commencer à avoir des changements de comportement plus profonds.
Alors comment opérer cette descente ou cette montée, je ne sais pas, de l'information rationnelle vers les profondeurs du cœur ou de l'être, enfin, comme on l'appellera comme on voudra?
Alors là, on est en train de passer pratiquement sur un autre plan qui est un plan plus spirituel. Les éco-psychologues, je dirais, ils abordent cette question plutôt par la dissociation par rapport à la nature. Parce que, évidemment, leur point d'ancrage, c'est notre relation à la nature. Et je dirais que le fait que nous ne changions pas de comportement est encore renforcé par la réalité que nous vivons comme séparés de la nature. La nature est perçue et vécue comme quelque chose qui est extérieur à notre être. Donc ce qui arrive à la nature ne nous affecte pas, au même titre que si ça a quelque chose qui affecterait nos enfants ou nos proches. Hein. Donc, et c'est vrai que nous sommes héritiers d'un paradigme, le paradigme de la modernité, qui est fondé sur ce dualisme où l'être humain s'est posé non seulement en dehors mais au-dessus de la nature, et nous sommes héritiers de ça. Et alors, pour eux, au fond, il faudrait dire, eh bien, comment est-ce qu'on arrive à nous reconnecter en profondeur à la nature pour pouvoir précisément, à un moment donné, être touché aussi par ce qui lui arrive. Donc ça, il y a toute une série de pratiques, je pense notamment à Jonah Macy, à son travail qui relie, qui est tout un processus, tout un chemin, une espèce de grande spirale avec s'enraciner dans la gratitude, honorer sa peine pour le monde, changer de vision et puis ensuite passer à l'acte. Alors ça, c'est des sessions qui se font sur plusieurs jours, oui, avec une immersion dans la nature, et qui sont, à mon avis, extrêmement fécondes et qui permettent, à travers une reconnexion avec la nature, d'œuvrer aussi à une reconnexion intérieure entre notre corps, notre âme et notre esprit.
Vous avez pratiqué ce genre de session vous-même,
Alors j'ai eu l'occasion de participer à une session au mois d'octobre dans les Ardennes, en Belgique. Alors, ce n'était pas une semaine, c'était 5 jours, avec un petit groupe, parce que ça se passe en petit groupe, mm-hmm. où j'ai effectivement eu l'occasion de pouvoir vivre ces différentes étapes. J'avais déjà vécu ça une année avant, donc c'est pour ça que je peux parler un petit peu de cet outil et que je peux en mesurer la qualité et la profondeur. Jonah Macy l'a conçu et mis en pratique depuis plus de 30 ans.
Ah oui, d'accord. Et vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'issue de... Alors, pardonnez-moi cette question un peu personnelle, mais je pense que ça intéresse tous nos auditeurs de savoir comment on peut se transformer, au fond, par un contact avec la nature.
Alors, c'est vrai que je reprends peut-être ces 4 moments. Un moment très important, qui est le premier, c'est s'enraciner dans la gratitude. Et s'enraciner dans la gratitude, alors ces différents exercices qu'on peut faire à travers en particulier des dialogues, enfin c'est pas véritablement un dialogue, mais on se met par paire et l'un va répondre à des questions ouvertes mais qui vont l'amener à rentrer dans son histoire personnelle, dans sa mémoire, au fond de moments, on pourrait dire entre guillemets magiques, ou de moments de communion avec la nature, ou de moments où véritablement on a senti à quel point on était lié à la nature et tout ce que la nature a pu nous apporter. Je crois que tous les êtres humains ont vécu des moments comme ça. Donc ça, c'est une façon de s'enraciner. Et puis, il y a les moments qu'on vit dans la nature pour évidemment aller mettre en pratique ça. C'est pas simplement de passer un bon moment en se promenant, mais il y a toute une démarche de type méditatif, contemplatif, pour vraiment être extrêmement présent à toute cette vie qui frémit, qui fourmille autour de nous. Et dont on peut tout à coup ou à par moment sentir qu'en réalité, il y a encore une autre dimension beaucoup plus profonde. Le deuxième moment, c'est en fait honorer sa peine pour le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entré dans cette gratitude, où on a reconnu tout ce qu'on a reçu de la nature et qu'on a valorisé en fait cela, eh bien, on est aussi plus disponible pour finalement, ça a pris... Pour moi, à la fois, on a la conscience de la valeur et du coup, on est plus disponible aussi pour pouvoir ressentir à l'intérieur de nous les maux qui l'affectent, les souffrances de la terre, et voir que ces souffrances de la terre, d'une certaine manière, c'est aussi nos souffrances. Et là, il y a aussi toute une série d'exercices qui nous amènent à nous connecter à nos émotions pour sortir de cette dissociation entre le mental et les émotions. Sachant que, et ces émotions, ça peut aussi être les peurs par rapport à l'avenir, ou aux générations futures, ou ce qui va arriver à nos enfants, ça peut être le sentiment d'impuissance, le découragement, la colère, la tristesse. Toutes ces émotions, c'est extrêmement important de les partager avec d'autres. Et une fois qu'elles sont exprimées et partagées, eh bien on voit qu'en réalité, elles sont des moteurs pour aussi agir et faire des pas suivants.
Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent, chacun pense à chacune. Chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris en la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en cœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune.
France Culture, les racines du ciel, les lions verts.
Si bon, chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. Oui, oui. La lune est là, ah, la lune est là, la lune est là, mais le soleil n'a pas là. Pour la tomber.
Les religions ont réputation d'être pas du tout écologique et d'une certaine façon d'avoir adoubé l'homme, enfin d'avoir donné l'autorisation à l'homme d'être maître et seigneur de la nature, d'être la créature la plus importante qui a le droit par conséquent de l'utiliser cette nature à ses propres fins sans prendre en considération ce que prenaient en considération ce qu'on appelle les peuples premiers ou les animistes, c'est-à-dire vraiment respecter les choses pour elles-mêmes. Et les religions monothéistes ont quand même la réputation, je dis bien la réputation, vous allez sans doute me contredire, je l'espère bien, ont la réputation d'avoir coupé l'homme justement de sa responsabilité vis-à-vis de la nature.
Alors c'est vrai que, et là je parlerai essentiellement de la tradition judéo-chrétienne et en particulier du christianisme, il y a ce fameux verset de la Genèse 1:28 qui parle justement de l'être humain qui est là comme dominateur de la terre. Et le mot dominer est quand même un mot très fort. Et évidemment, toute la question, c'est comment va-t-on interpréter ce texte? Et comment a-t-on interprété ce texte? Parce qu'il s'agit d'un verset parmi d'innombrables versets dans la Bible où vous avez des postures tout à fait différentes de celles-là. Et puis après, il y a qu'est-ce que l'Église en a fait et qu'est-ce que l'Église, en lien avec la société et son époque, en a fait. Et je pense que le drame, c'est qu'en particulier en Occident, avec la modernité, il y a eu une tendance, j'aurais presque envie de dire, à faire une interprétation cartésienne du Descartes, maître et possesseur de la nature, une interprétation cartésienne de ce verset pour pratiquement justifier cette position de l'être humain au-dessus de la nature et donc qui se donnait la légitimité de pouvoir la réduire à un stock de ressources et à pouvoir l'exploiter. Donc là, je pense que la tradition chrétienne, pour moi, ce n'est pas l'essence et le sens profond de la tradition chrétienne, c'est véritablement une forme de... D'ailleurs, le pape François, dans son encyclique, lui-même le dit, il parle d'un anthropocentrisme dévié ou déviant. Et donc, qu'il y a là, dans la tradition chrétienne, il y a eu des courants, et dans l'Église, et dans la théologie, qui ont contribué à cette déviation. Et la première chose, c'est de le reconnaître, c'est de faire notre autocritique. Et ce que, justement, j'ai essayé de faire, c'est en allant à des sources plus anciennes et plus profondes, à montrer qu'il y a des ressources pour, justement, sortir de cette anthropocentrisme et aussi pour redonner à la nature sa dimension sacrée. Grand métropolite et théologien orthodoxe, Monseigneur Jean de Pergame, quand il parle de la crise écologique, il dit « la crise écologique est la crise d'une société qui a perdu le sens du sacré parce qu'elle a perdu sa relation à Dieu ». Et donc redonner à la nature, à la création, sa dimension sacrée.
La difficulté là, c'est que un des éco-psychologues que vous citez, Paul Sheppard, explique qu'en fait cette rupture, elle se fait très très tôt. C'est même pas. Alors évidemment, il a une charge contre les religions monothéistes, en particulier le judéo-christianisme, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs dans votre livre de. Alors que vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse, de bien l'exposer dans tous ses détails, éventuellement pour la critiquer après. Globalement, vous êtes d'une honnêteté intellectuelle que je tiens à souligner hein, dans votre livre sur l'éco-psychologie. Donc, je reviens à Paul Sheppard, que vous citez. Pour lui, cette affaire de rupture avec le sens sacré de la nature commence en réalité quand on passe carrément, enfin quasiment, de la société des cueilleurs-chasseurs à la société dans laquelle on installe la domestication de l'animal et l'agriculture.
Oui, alors c'est le fruit d'une longue histoire, d'ailleurs il marque différentes étapes, et la première étape, c'est effectivement les néolithiques, c'est-à-dire il y a à peu près 10 à 12 000 ans, où on a un premier grand dualisme qui s'instaure entre la nature sauvage et la nature domestiquée.
Voilà.
Et ensuite, on a les monothéismes qui, eux, vont en particulier instituer un dualisme entre justement Dieu et la nature, c'est-à-dire qu'il y a eu une tendance à comme un peu expulser Dieu hors de la nature, dans une transcendance, alors qu'une spiritualité juste et vivante, Dieu est à la fois transcendant et immanent. Mm-hmm. Il faut tenir les deux pôles, mais on a une tendance à, en fait, envoyer Dieu dans une transcendance, l'exil dans une forme de transcendance, qui évidemment, du coup, rend la nature comme privée de toute dimension d'intériorité et de mystère. Avec les monothéismes, il y a un autre aspect, c'est qu'on passe au fond de divinité plutôt féminine et maternelle, la déesse mère, à une divinité très, très masculine, c'est la figure patriarcale du père, qui est à la fois transcendant et en fait avec une dimension masculine très forte. Donc là, on a quand même l'ouverture à un dualisme féminin-masculin qui est, à mon avis, essentiel pour comprendre les racines de la crise écologique. Après, vous avez la modernité, alors ça, les dualismes entre la matière et l'esprit. C'est-à-dire que cette matière, eh bien, elle n'a plus de dimension spirituelle. Et puis ensuite, on aura, avec la révolution industrielle, l'ère de la mécanisation avec le règne de la machine. Et nos sociétés, en particulier en Occident, souffrent en fait d'une carence, d'une insuffisance, voire d'une absence de la matrice de la nature. Ce qui, en fait, inscrit dans l'être le plus profond une forme de l'ampute d'une dimension essentielle de l'être qui est, en fait, à l'origine même de relations disharmonieuses avec le reste du créé.
Et alors, justement, ça fait partie du processus que vous appelez la renaturation de l'être humain. Mais pour vous, à nouveau, il y a un pas de plus à faire, c'est-à-dire que cette renaturation, elle ne peut pas faire l'économie de la dimension spirituelle. Pour vous, renaturer et diviniser, ça se fait dans un même mouvement, Michel Maximeguer.
Oui, alors, et là, bon, je m'inscris clairement dans la tradition chrétienne, c'est mon enracinement, tout en étant évidemment ouvert aux autres traditions. La renaturation, c'est finalement la prise en compte de l'être humain comme microcosme, c'est-à-dire comme imago mundi, image du monde, qui est à prendre très, très, très au sérieux et qui est d'ailleurs inscrite dans la Genèse, puisque nous sommes façonnés à partir de la glaise et de la terre, hein. Mais en même temps, nous recevons une haleine de vie, en fait, et nous sommes créés, selon cette tradition, à l'image de Dieu. Donc nous sommes aussi imago dei. Imago mundi, imago dei. Et c'est ce qui amenait un grand père de l'Église, Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, à définir l'être humain comme un être frontière, en disant, voilà, c'est un être frontière qui appartient à la fois à la terre et au ciel, qui appartient à la fois au monde matériel et au monde spirituel, à la fois au temporel et à l'éternel, et qui définit précisément notre vocation dont découle une responsabilité, qui est d'être un pont entre la terre et le ciel, c'est-à-dire d'œuvrer à cette union, à cette unité entre la terre et le ciel, entre la nature et Dieu, mais évidemment à travers notre propre union, parce qu'on ne peut pas le faire d'une manière extérieure, c'est à travers notre propre transfiguration et union au divin que nous, d'une certaine manière, nous serons les acteurs ou les agents de cette divinisation de la nature.
Et est-ce que c'est dans cet espace de communion que vous venez d'évoquer qu'on pourra parler de mystique? Vous en parlez, les éco-psychologues en parlent aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'ils se connectent quand même à une dimension mystique dans le sens de relier à quelque chose de mystérieux.
Oui, alors c'est vrai que, et là ça pose la question du mode de connaissance, parce que ce fameux paradigme de la modernité, dualisme, dualiste, dont nous héritons et qui est la racine de la crise écologique, c'est un paradigme qui a conduit peu à peu à une exaltation de la raison, c'est-à-dire la rationalité logique, comme instrument suprême de la connaissance. Alors, il ne s'agit pas du tout de nier l'importance de la raison, mais de la resituer. Il n'y a pas que cette intelligence-là, il n'y a pas que ce mode de connaissance-là. Et l'être humain est créé corps, âme et esprit, selon la grande tradition des pères de l'Église et la grande tradition biblique. Ça forme d'ailleurs un tout. On ne peut pas séparer, évidemment, diviser l'être humain, mais il y a cette image développée par les Grecs de l'être humain corps, âme et esprit. Et l'esprit, qui n'est peut-être pas vraiment la traduction la meilleure. Certains parlent d'intellect spirituel pour justement le différencier de l'intellect rationnel. C'est cette capacité, cette faculté assez mystérieuse que nous avons, mais Tréquart parlerait peut-être de la fine pointe de l'âme, qui nous rend capable de Dieu, c'est-à-dire qui nous rend précisément capable de percevoir les réalités au-delà des apparences et de nous connecter par la dimension les plus profondes de notre être à cette dimension de mystère qu'on appelle Dieu. Et donc, ce chemin de connaissance, il passe aussi par l'éveil et la culture de l'esprit, de cet intellect spirituel, et qui nous amène à un autre mode de connaissance qui nous fait sortir de ce que Rozac appelle finalement la connaissance dualiste avec un objet qui connaît, un sujet connaissant qui connaît un objet. On est au-delà de la séparation objet et sujet pour aller vers vraiment une connaissance par communion, par participation, en fait une connaissance par amour, où on est avec ce qu'on a à connaître.
Oui, et d'une certaine façon, ça définit la mystique comme ce point où précisément la dualité disparaît. C'est-à-dire la mystique, c'est ce qui tient ensemble des choses qui ont l'air d'être contradictoires, en particulier le paradoxe. Et c'est en ce sens qu'on emploie le mot mystique. C'est pas dans le sens nécessairement des extases mystiques des grands saints, bien sûr. Je voudrais, dans la dernière partie de cette émission, que l'on parle aussi de l'aspect plus pratique, le volet pratique, en fait, de cette attitude, qui est ce que vous appelez pour faire court, évidemment, et je prie nos auditeurs de ne pas prendre peur tout de suite en employant ce mot, quand j'emploierai ce mot, c'est le mot d'ascèse, qui effectivement revient, qui peut faire penser à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, bien sûr, et qui peut aussi faire penser à un passage, là aussi, je vous ai apporté un texte pour amorcer cette dernière partie, qui est un texte de Thoreau, évidemment, inévitable Thoreau pour quand on parle de ces sujets-là. Et voici ce passage, en fait, sur le luxe, qui est tout à fait saisissant dans Walden ou la vie dans les bois. À nouveau, ce n'est pas pour faire peur à nos auditeurs, mais juste pour dire que la radicalité de Thoreau peut nous inspirer, dans une moindre mesure, bien sûr, peut-être dans notre vie quotidienne. Le luxe, en général, et beaucoup du soi-disant bien-être, non seulement ne sont pas indispensables, mais sont un obstacle positif à l'ascension de l'espèce humaine. Au regard du luxe et du bien-être, les sages ont de tout temps mené une vie plus simple et plus frugale que les pauvres. Les anciens philosophes, chinois, hindous, persans et grecs, représentent une classe que pas une n'égala en pauvreté pour ce qui est des richesses extérieures, ni en richesse pour ce qui est des richesses intérieures. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Il est étonnant que nous sachions d'eux autant que nous faisons. La même remarque peut s'appliquer aux réformateurs et bienfaiteurs plus modernes de leur race. Nul ne peut se dire impartial ou prudent observateur de la vie humaine qui ne se place sur le terrain avantageux de ce que nous appellerons la pauvreté volontaire. D'une vie de luxe, le fruit est luxure, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce, de littérature ou d'art. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes. Encore est-il admirable de professer pourquoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Michel Maximeguer, que vous inspire ce texte de Thoreau que je suppose vous connaissez fort bien?
Oui, c'est un de mes auteurs de chevet, évidemment. Alors là, c'est vrai qu'il ouvre sur, vous avez mentionné Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. D'ailleurs, c'est intéressant que le pape François, dans son encyclique, reprend exactement la même ligne comme piste finalement proposée non seulement aux chrétiens, mais à tous les habitants de la maison commune, la terre. Alors, dans une démarche éco-spirituelle, ce mode d'être ou mode de vie est extrêmement important, mais vous avez aussi parlé d'ascèse. Et je crois que ce qui est important de voir, c'est qu'il ne suffit pas de le proclamer pour qu'on puisse le vivre.
Bien sûr.
Et que ça suppose de nouveau un travail de transformation intérieure. Et les éco-psychologues montrent, on l'a dit, les liens qu'il y a entre les déséquilibres, au fond, les déséquilibres dont la Terre souffre, sont l'objectivation et la manifestation de déséquilibres intérieurs. Et il y a un verset de la Genèse, pour faire le lien avec la tradition judéo-chrétienne, qui est le verset de la Genèse 2,15, où, en fait, on parle de l'être humain comme gardien, que celui qui garde et qui cultive le jardin d'Éden, mais ça est devenu un peu la charte de l'écologie chrétienne, puisque ce jardin, c'est la terre. Eh bien, je dirais qu'on pourrait faire une interprétation plus spirituelle et plus profonde encore de ce verset, pour dire que ceux dont nous avons à être des bons gérants, c'est de notre terre intérieure, c'est-à-dire de notre cosmos intérieur qui est plein d'animaux sauvages que nous avons évidemment aussi à nommer, c'est-à-dire dont nous devons prendre conscience, et qui sont toutes ces forces, toutes ces pulsions, souvent inconscientes, un peu sauvages, quand elles n'ont pas été visitées et nommées, qui nous font précisément participer à ce système économique qui détruit la planète à travers la consommation. Et là, on trouve cette ascèse, askésis au sens d'exercice. Et un des champs sur lesquels il convient de travailler dans une démarche éco-spirituelle, c'est notre puissance de désir. Liée à l'image de Dieu en nous et à cette haleine de vie, ce souffle de vie que Dieu insuffle dans la terre, dans la glaise, pour créer l'être humain, eh bien, il y a, en fait, ça c'est Grégoire de Nyssa qui dit, en réalité, c'est une puissance de désir qui est le plus profond de notre être et dont la source et l'origine est divine. Et c'est ce qui nous fait aspirer à la beauté, à l'art, à l'amour, à la spiritualité, au divin. Le problème, c'est que, de nouveau, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur un plan psychologique, c'est comment est-ce qu'on va satisfaire cette aspiration? Et si on essaie de la satisfaire par des avoirs, par des biens, matériels ou par des agréments psychiques liés à ces biens matériels, eh bien, on va tomber dans une forme d'illusion. Et en fait, le problème du point de vue spirituel, c'est que nous avons un phénomène de désorientation de cette puissance de désir, c'est-à-dire qu'en fait, on perd notre orient. Elle est désorientée, et que là, et c'est en fait l'enseignement de toutes les traditions spirituelles, c'est comment réorienter cette puissance de désir. Et pour pouvoir la réorienter, eh bien, ça passe par le fait qu'à travers notamment la prière, la méditation, nous allons pouvoir nous réancrer et nous reconnecter à cette source divine qui est la source de cette aspiration, mais qui est en réalité la source de notre être.
Enfin, moi, je vous avoue, de temps en temps, je suis quand même prise d'un profond désespoir. Comment faites-vous pour garder autant d'optimisme, alors qu'à chaque fois qu'on voit que même les plus belles choses, les choses les plus hautement spirituelles qui permettraient de nous sauver, finalement, finissent par être absorbées dans ce mouvement général qui va à notre perte. Enfin, pardonnez cette note pessimiste, mais...
Que je partage en partie, c'est-à-dire qu'en réalité, je crois que le chemin spirituel, et en particulier par rapport à ces grandes questions ou à ce que vous venez d'évoquer, cette capacité extraordinaire de la société de marché d'absolument tout récupérer pour en fait en faire un business, et pour du coup tout transformer en marchandise. Je crois que si on peut donner une définition du capitalisme, c'est vraiment la capacité à tout transformer en marchandise. Alors, je crois que ce que vous dites est extrêmement important, c'est la lucidité. Il faut être extrêmement lucide, il ne faut pas tomber dans une spiritualité un petit peu niaise et naïf où tout serait beau et gentil. Puis en même temps, il y a cet autre pôle qui est l'espérance. Et l'espérance, eh bien, c'est pas un fruit de ma volonté et de mon choix et de ma décision. L'espérance, en réalité, elle naît précisément de cette reconnexion permanente et de cette ouverture à une énergie, à une force, à une dimension qui est plus grande que moi. Et à partir du moment où j'essaie de la laisser, à travers toutes mes opacités quand même, vivre en moi, eh bien, c'est elle qui nourrit cette espérance, parce que finalement, et là, j'exprime ma foi profonde de chrétien, c'est la conviction, et qui est le cœur de la résurrection, c'est que la vie est plus forte que la mort.
On ne pouvait trouver de plus belle conclusion, Michel Maximeguer, à cette émission donc consacrée à écologie et spiritualité. Je rappelle les titres de vos ouvrages, « La terre comme soi-même », mais aussi « Soigner l'esprit, guérir la terre, introduction à l'écopsychologie ». Les deux ouvrages ont été publiés aux éditions Labor et Fides. Merci beaucoup, Michel Maximeguer, d'être venu témoigner de votre espérance aussi, de votre énergie, et de nous donner un peu d'espoir pour pouvoir nous changer nous-mêmes et changer aussi le monde par la même occasion, peut-être un peu. Il est temps maintenant d'accueillir Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions, notre partenaire, pour son agenda. Alors Virginie, que nous avez-vous apporté cette semaine ?
Alors sans vouloir tenir un discours catastrophiste à l'aube de cette nouvelle année, on voit bien à quel point la violence pollue notre quotidien. Et ici je ne parle pas seulement évidemment du terrorisme, mais aussi de cette violence insidieuse que nous subissons en permanence. Par exemple le délitement des liens interpersonnels qui plonge nombre de nos contemporains dans la détresse ou la solitude. Cette violence aussi qui empoisonne la vie dans les entreprises et ce fameux burn-out qui montre à quel point notre manière de penser le travail est malade, et la violence également de nos cadres de vie qui sont totalement pollués jusqu'à notre nourriture empoisonnée par les pesticides. D'où une question, qui sont les personnes les plus à même de lutter et d'endiguer cette violence ? Qui sont en fait les héritiers de Gandhi, de Martin Luther King aujourd'hui dans notre société ? Alors il est clair que quand on observe les choses de plus près, malheureusement la non-violence en tant que force politique n'a plus la puissance qu'on lui a connue par le passé. Aussi, les apôtres de la non-violence se situent-ils bien souvent chez les leaders religieux, que l'on pense évidemment au pape François ou à un Desmond Tutu, ou évidemment encore au Dalai Lama. Alors cela étant, du côté des politiques, il y a tout de même quelques personnes, quelques figures inspirantes de la non-violence. On pense en particulier à Aung San Suu Kyi en Birmanie, qui a fait, comme chacun sait, de la non-violence plutôt son fer de lance contre la dictature militaire de son pays. Parmi les apôtres de la non-violence, on peut aussi rappeler qu'en France, l'écologiste Pierre Rabhi s'est impliqué dans la vie politique, puisqu'en 2002, vous vous souvenez peut-être qu'il avait fait une pré-campagne présidentielle et obtenu des parrainages d'élus. Par la suite, pour les présidentielles de 2012, c'est par son mouvement des Colibris qu'il a tenté d'influer sur la vie politique française avec la campagne « Tous candidats pour une République des consciences » qui appelait à un engagement citoyen allant bien au-delà des présidentielles. Car c'est effectivement du côté de la société civile que se trouvent à l'heure actuelle les militants les plus actifs en faveur de la non-violence et de la préservation de l'environnement, les deux étant bien souvent liés. Parmi les figures les plus connues, il y a par exemple l'Indienne Vandana Shiva, qui milite pour un retour à une économie paysanne réconciliée avec la terre-mère, ou encore l'activiste américaine Starhawk. Au lendemain du 11 septembre 2001, elle avait publié une tribune, que je remercie d'ailleurs Mohamed Taleb de m'avoir fait connaître, tribune qui résonne d'une actualité particulièrement vibrante. « Nous savons, disait-elle, au plus profond de nous-mêmes, que nos technologies et nos économies ne sont pas viables, que la nature est plus forte que nous, que nous ne pouvons toucher impunément aux écosystèmes et que nous créons un tel désespoir dans le monde qu'il ne peut qu'éclater au grand jour, pleurer et se déchaîner. La chute des tours était une icône du moment prochain où nous devrons payer l'addition, un moment que nous craignions mais anticipions secrètement. » Cette chronique avait été écrite par Starhawk en 2001. On le voit aujourd'hui, que de temps perdu, et comme le chemin semble encore long pour redonner du sens à notre monde, même si nous nous y essayons.
Merci beaucoup Virginie Larousse pour cette chronique engagée. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lily Envar. La semaine prochaine, je recevrai Éric Geoffroy, qui viendra nous parler d'un soufisme pour notre temps à travers la confrérie Alaouia. Je vous laisse maintenant en compagnie de Frédéric Lenoir pour Chemin de Sagesse.
Une fois que nous sommes pleinement nous-mêmes, que nous sommes de plus en plus, en tout cas nous-mêmes, que nous faisons ce travail d'individuation, que nous cherchons à nous connaître pour essayer d'être nous-mêmes et de développer nos qualités propres, d'exercer les activités qui nous conviennent le mieux, de pouvoir être juste, une fois que nous faisons ce travail-là, qui est un travail que j'appelle de déliaison. Nous allons nous délier, nous allons enlever tout ce qui n'est pas nous. Nous allons enlever toutes les croyances, les valeurs, les pensées qui nous ont peut-être construites, qui ont peut-être été utiles à un moment donné, mais qui ne sont pas nous-mêmes, qui ne viennent pas de nous et qui en tout cas ne nous permettent pas de nous épanouir le plus possible. Une fois que nous faisons ce travail de déliaison, eh bien en parallèle, nous pouvons faire un travail de reliaison. La reliaison, c'est se relier aux autres et au monde de manière juste, parce que nous-mêmes, nous sommes justes. Et bien souvent, nous avons vu dans notre vie que parce que nous n'étions pas justes avec nous-mêmes, puisque nous connaissions pas vraiment, nous nous sommes liés à des personnes finalement qui ne nous correspondaient pas, qui ne nous épanouissaient pas, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans la vie sociale, on va subir les relations où on va toujours... ce qui est le cas typique des névroses, choisir des personnes qui finalement vont réveiller nos souffrances, nos blessures, et elles sont là, ces rencontres, pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre que nous devons changer. Et tant que nous changeons pas, bah, nous rencontrerons toujours des gens, et on voit ça en permanence. Autour de soi, on voit toujours des gens qui vous disent « Ah ben, je retombe toujours sur le même type de personnage qui me fait souffrir, etc. » Mais à ce moment-là, il faut dire aux personnes « Mais remets-toi en question. » C'est parce que tu as toi-même telle attitude, telle pensée, telle croyance, par exemple que tu n'es pas aimable ou que tu ne peux être aimé que si tu te soumets, que tu vas rencontrer des tyrans. Et donc, parce que peut-être tu avais un père ou une mère tyrannique. Et ce travail-là, bon, moi j'en ai fait un très important. J'avais une relation particulièrement complexe avec mon père qui effectivement avait une grande importance et son regard était très important pour moi. Il a fallu que je me libère de ce regard pour pouvoir être moi-même. Et du coup, la qualité des êtres avec lesquels je me suis relié a complètement changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change soi-même, on ne rencontre plus les mêmes personnes. On ne s'attache plus aux mêmes personnes. Nos énergies sont différentes, notre regard est différent, nos pensées sont différentes. Et à ce moment-là, on attire des gens différents. C'est assez extraordinaire d'observer dans la vie ces lois, finalement, d'interdépendance qui fait que nous allons rencontrer des gens qui sont, d'une certaine manière, sur la même longueur d'onde que nous. Ce qui fait que lorsqu'on change, lorsqu'on se délie pour se reconstruire de manière différente, eh bien, au fur et à mesure, on voit qu'on se relie aux autres. C'est pour ça que ces deux grands mouvements, se délier, se relier, vont ensemble. On se relie aux autres de manière différente et on redécouvre des liens d'amitié et d'amour tout à fait plus profonds, plus justes, plus appropriés. Finalement, je crois que pour moi, il n'y a pas de grande différence, je vais choquer certaines personnes en disant ça, entre l'amitié et l'amour. Je pense que c'est fondamentalement le même sentiment. C'est un sentiment de bienveillance, c'est un sentiment de réciprocité dans lequel on choisit quelqu'un pour essayer de devenir la meilleure personne possible et pour essayer que l'autre devienne la meilleure personne possible. Les amis et les amoureux sont ceux qui veulent le bien de l'autre, fondamentalement. Et puis évidemment, il y a ce qu'on appelle la passion amoureuse. Et la passion amoureuse, c'est ce désir qui nous emporte, mais qui peut nous illusionner. Et bien souvent, dans la passion, et le mot passion d'ailleurs le dit, hein, c'est une joie passive, c'est typiquement pour Spinoza les affects passifs. Dans la passion amoureuse, on est dans l'illusion. Nous n'avons pas une idée juste, une idée adéquate de l'autre. Nous nous laissons prendre par l'image que nous avons idéalisée, nous y reconnaissons inconsciemment notre père, notre mère, ou quelqu'un d'autre, et donc nous nous laissons emporter dans des relations qui ne sont pas justes. Et vous savez, Spinoza, encore lui, donne une définition de l'amour qui est certainement la moins romantique qui soit, mais la plus juste. Il nous dit l'amour, c'est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez, c'est pas très romantique, mais c'est tellement précis. C'est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Et donc, lorsque nous faisons une rencontre amoureuse, nous avons immédiatement une idée de ce qu'est l'autre. Cette idée, c'est bien souvent notre imagination qui nous la donne. Et donc, nous sommes pleins d'illusions sur l'autre. Et puis, au bout de 6 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, on va dire, oh, mais l'autre n'est pas du tout ce que je croyais, il a montré son vrai visage, c'est terrible, et je me sépare. Et on dit, l'amour ou la passion dure 3 ans. Mais c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la passion, c'est l'illusion qui dure 3 ans. Alors que si on est dans la lucidité, si on est dans un regard juste sur l'autre, si on l'observe vraiment, si on est attentif, si on le regarde pas avec les filtres de notre désir qui s'aveugle totalement, à ce moment-là, on peut rentrer dans une vraie relation, comme en amitié. Mais dans l'amitié, il n'y a pas évidemment cette pollution, entre guillemets, au sens pas du tout péjoratif du terme, du désir qui fait que le désir nous aveugle. Mais lorsqu'on est en amitié, on est beaucoup plus lucide sur les gens. Et à ce moment-là, on développe des très belles relations. Et je crois que le but de l'amour véritable, pas de l'amour passionnel, mais de l'amour véritable et de l'amitié, c'est la même chose. C'est un choix réciproque. Il doit y avoir réciprocité, sinon c'est du sacrifice. Un choix réciproque de se permettre de grandir pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Et je crois que c'est pas autre chose, l'amour. C'est vraiment une relation de bienveillance. On se choisit pour aller le plus loin possible dans l'existence et essayer chacun de donner le meilleur en s'épaulant, en s'aidant, en se soutenant, en se comprenant. On crée une complicité, on crée des liens qui nous permettent une tendresse, qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes. Donc finalement, l'amour, lorsqu'il est vécu de manière juste, nous aide encore plus à être nous-mêmes. Ce qui fait qu'il y a un lien permanent entre l'amour, entendu comme amour d'amitié, c'est l'expression d'ailleurs d'Aristote. Et quand il parle d'amour, c'est philia. Et philia, on pourrait traduire un amour d'amitié, mais qui vaut aussi bien pour Aristote, comme je le pense également, qui vaut aussi bien pour les amis que pour les conjoints, c'est-à-dire ceux qui se sont choisis dans le cadre d'une relation amoureuse. Et donc finalement, dans cet amour, plus nous aimons l'autre, plus nous avons envie qu'il soit lui-même, qu'il s'épanouisse, qu'il développe sa propre nature. Et bien souvent, c'est pas ce que nous voyons parce que c'est la passion qui l'emporte, c'est-à-dire la peur, les émotions négatives qui fait qu'on a peur de perdre l'autre et on préfère qu'il soit pas lui-même pour nous rester proches ou plutôt pour nous rester asservis, pour qu'on puisse toujours profiter de lui. Et donc on voit que malheureusement dans beaucoup de couples, c'est ce désir de possession, cette jalousie qui domine au lieu d'être dans ce sentiment de bienveillance, d'amour véritable qui fait que on se relie afin de s'aider à grandir et à s'épanouir pleinement.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours sur notre site. Tout de suite, le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.